Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19. Nous allons lire les versets 1 à 10. Apocalypse, chapitre 19, les versets 1 à 10. Donc l'apôtre Jean écrit « Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen Alléluia !» Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands !» Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia !» Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous poursuivons donc notre étude de ce livre de l'Apocalypse, un livre qui est souvent mal compris, parce que beaucoup de personnes cherchent à l'interpréter à la lumière des événements actuels, au lieu de revenir à l'origine de cette lettre. Simple, pour résumer, je sais que vous à Besançon, vous suivez l'étude avec un certain décalage, mais pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, simplement résumer ou dire certaines grandes lignes. Ce livre a été écrit à la fin du 1er siècle. Et le titre « Apocalypse » veut dire « révélation ». Premier mot sur la feuille pour les enfants. « Révélation » ou « dévoilement. » Quand on refait la façade d'un bâtiment, caché derrière des bâches, puis un jour les bâches tombent, on dévoile. On dévoile. Voilà ce que le mot Apocalypse veut dire. Et l'apôtre Jean reçoit donc le message du Seigneur Jésus qu'il va transmettre d'abord aux croyants du 1er siècle, ceux qui habitent dans la province romaine d'Asie, ceux qui à la fin du 1er siècle, commence à sentir la persécution de la part de l'empereur Domitien. Et Dieu, par la plume de l'apôtre Jean, veut les encourager, mais pas seulement les croyants du 1er siècle, mais les croyants de toute l'histoire, puisque la persécution n'a jamais cessé dans l'histoire. Ce monde hostile persécute les croyants, où qu'il soit, d'une manière différente. Mais Dieu veut que les croyants, que l'Église sache que le Seigneur Jésus-Christ règne et qu'il vient chercher son Église et juger le monde. Alors quand on parle d'Église, et je vais souvent utiliser ce terme, quand on parle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, on parle bien entendu, on ne parle pas d'un bâtiment, on ne parle pas d'une dénomination, mais on parle de l'ensemble des personnes qui sont unies à Jésus-Christ par la foi. des personnes qui ont été amenées à reconnaître leur péché, leur désobéissance, leur rébellion, et qui ont été amenées à la repentance et à la foi en Jésus-Christ, qui ont été réconciliées à Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et dans ce livre, l'apôtre Jean utilise des symboles et des images et qui viennent de toute la parole de Dieu, particulièrement de l'Ancien Testament. Et donc, il faut revenir au reste de la parole de Dieu pour comprendre l'Apocalypse. Et le livre est divisé en 7 parties. Et ici, nous sommes au chapitre 19, à la fin de la sixième section. Et chaque section couvre toute l'histoire depuis l'ascension, la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ jusqu'à son retour. Et plus on avance dans les sections, plus on a de détails concernant la fin de l'histoire. On a davantage de détails concernant la fin de l'histoire ici, à la fin de la sixième section, que l'on en a eu à la fin de la première section, par exemple. Nous avons vu dans cette section, cette sixième section, la description du jugement de ce monde qui est appelé Babylone, Babylone la grande, Babylone la prostituée, parce qu'elle séduit les hommes. Elle séduit les hommes pour les retenir esclaves de ses idées. Et maintenant, au chapitre 19, on a la louange qui s'élève au ciel pour non seulement le jugement de Dieu, mais aussi pour le salut que Dieu a accompli en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez assisté à une épreuve sportive où les équipes sont très proches l'une de l'autre et les supporters d'une équipe essayent de crier plus fort que l'autre équipe pour encourager les joueurs ou le joueur si c'est un match de tennis ou ici à Chalon ce serait plutôt un match de basket au Colisée quand l'Élan Chalon reçoit l'équipe de Dijon dans le derby bourguignon. Le Colisée devient un chaudron. Le bruit est phénoménal. Mais un tel bruit ne pourrait même pas se comparer à ce que Jean décrit ici. Le bruit de la foule céleste qui est décrit comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de forts coups de tonnerre. De la foule qui célèbre la victoire de Jésus-Christ. Deuxième mot sur la feuille. Il a vaincu ce monde. Il a vaincu Babylone. Et il est déclaré, chanté, loué comme étant celui qui est victorieux. Mais si la foule du Colisée de Chalon peut nous aider à avoir un aperçu du volume, le meilleur aperçu de la beauté du chant, nous le trouverons sans doute dans le refrain « L'Alléluia du Messie de Handel ». Si vous connaissez cette pièce, vous avez cette énergie qui commence, qui monte petit à petit tout au long de la pièce, jusqu'à ce que l'ensemble des chœurs éclate, explose dans un « Alléluia ». Et ça, c'est qu'un aperçu. Ça, c'est qu'un aperçu de ce que Jean nous décrit ici. De cette chorale innombrable au ciel qui chante « Alléluia ». Alors les enfants, est-ce que vous vous rappelez ce que veut dire « Alléluia » ? Hein, c'est un des mots hébreux que l'on a directement, qui est venu directement dans la langue française, à part une orthographe légèrement différente. Hein. J'avais dit que c'était trois parties, il y a « Allel »,« Ou » et « Ya ». Est-ce que vous vous rappelez ? Non ? Ça fait trop de choses. Allel, c'est le verbe louer. Allelu, c'est la deuxième personne du pluriel, vous. Et Ya, c'est le diminutif de Yahvé, l'Éternel. Donc vous, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Voilà ce que Alléluia veut dire. Et nous avons vu au chapitre 18 que ce n'était pas facile pour l'Église, pour les croyants, de se réjouir de la chute et du jugement de ce monde babylonien. Et cela parce que nous avons cette compassion que nous sommes appelés à manifester envers les pécheurs. Et nous ne pouvons pas nous réjouir de les voir subir la colère de Dieu. Seuls ceux qui sont cachés en Christ sont protégés de cette colère. Ceux qui ne sont pas cachés en Christ devront subir la colère de Dieu. Et nous ne pouvons pas nous réjouir de cela. Mais ici, quand la chorale chante « Alléluia », on a davantage de raisons positives qui nous rappellent pourquoi nous pouvons nous réjouir dans le jugement final de Dieu. Le renversement des incrédules, le jugement de ce monde n'est pas le but, mais c'est un moyen d'arriver au but. Et quel est ce but? C'est le règne glorieux, parfait, universel, entier du Seigneur Jésus-Christ sur toutes choses. Et donc c'est le premier point, l'entrée, l'arrivée de ce règne de paix du Seigneur Jésus-Christ. Verset 6, la chorale chante « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Et ce titre, c'est le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, met en avant deux choses, met en avant la souveraineté, mais aussi la toute-puissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu dans l'histoire un moment où Dieu ne régnait pas dans sa souveraineté. Par exemple, le psaume 2 parle du tumulte parmi les nations, des vaines pensées parmi les peuples, de la révolte contre Dieu et contre celui que Dieu a choisi. Mais malgré cela, malgré ce que les nations pensent, Dieu n'est pas détrôné. Il n'est même pas menacé par les latitudes et par les propos de l'homme. Le psaume continue en disant « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Pourquoi ? Parce qu'il a établi son propre Fils comme le roi sur la montagne sainte. Dieu l'a décrété avant même la fondation du monde. Il a établi son Fils. Et quoi que dise le monde, cela ne changera rien. » Nous savons que le plan de Dieu, pour l'histoire, dans le plan de Dieu, il a permis l'entrée du péché pour que, à la fin, le Fils de Dieu règne en grâce, troisième mot sur le feuille, règne dans sa grâce sur un peuple qu'il a racheté par son sang, un peuple qu'il aime et qui le sert. Et nous vivons dans une période où, même si le décret existe, même si Dieu a décidé cela, même si cela est une certitude, nous ne voyons pas encore l'établissement parfait de ce royaume. Mais quand cela sera venu, comme les croyants au ciel, comme la chorale ici chante, nous nous réjouirons de voir que tout ce que nous craignons aujourd'hui, tout ce qui s'oppose à Christ, tout ce qui fait du mal, que ce soit la chair, le monde, que ce soit l'adversaire, que ce soit le péché, tout cela sera renversé, tout cela sera vaincu. Il n'y aura plus rien pour empêcher l'arrivée du royaume parfait du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pas étonnant de voir la chorale se réjouir et chanter « Alléluia ». Mais durant l'histoire, l'homme a couru après cette utopie d'un monde où il n'y aura que le bien. Le problème, c'est que l'homme essaye de créer ce monde de ses propres mains, dans sa propre sagesse, et bien entendu, pour sa propre gloire, avec l'homme sur le trône. Mais qu'est-ce que nous apprend l'histoire? Étant donné que rien n'est fait pour traiter la question du péché, rien n'est fait pour traiter la question de la corruption du péché, de la malédiction de Dieu sur le péché, toutes les tentatives de l'homme pour atteindre cette utopie se terminent très souvent dans une tyrannie sanglante et dans un chaos. Et on le voit aujourd'hui. Beaucoup de décisions politiques courent après ce rêve laïque d'une utopie créée par l'homme. Les arts, la littérature, et surtout les œuvres de science-fiction Imagine un monde où l'homme connaîtrait la paix, la joie, mais tout cela, c'est que de la fiction. Ce que la Bible décrit ici, ce n'est pas de la fiction. C'est l'histoire à venir. Et aujourd'hui, nous avons un aperçu de cela dans l'Église, quatrième mot sur la feuille. L'Église, le corps de ceux qui ont été réconciliés avec Dieu, est un aperçu de cette nouvelle société. Ce sont les mêmes personnes qui seront avec le Seigneur Jésus-Christ dans la gloire. Mais d'une certaine manière, elles sont encore immatures. Elles combattent contre le péché et elles désirent voir ce jour. Elles attendent ce jour meilleur où il y aura une communion parfaite après le retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est une réalité future, mais tous ne la voient pas et tous ne la comprennent pas. Et il y a un exemple que je voudrais vous citer. C'est l'exemple d'un homme qui s'appelle Edward Hicks. Edward Hicks. C'était un peintre américain du début du 19e siècle, mais c'était aussi un prédicateur chez les Quakers. Et ses tableaux les plus célèbres font partie d'une série qui s'appelle The Peaceable Kingdom, le royaume de paix. Et là, il a essayé d'illustrer ce texte d'Ésaïe 11, verset 6. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Et tous les tableaux de cette série ont ces différents personnages. Les historiens de l'art ont divisé les tableaux de Hicks en quatre parties. Et on peut suivre l'évolution de l'artiste alors qu'il était de plus en plus confronté avec la réalité. Et à la fin de son ministère, dans les églises qu'il servait, quand ces églises ont connu des divisions, X, l'artiste, a commencé à peindre ses animaux en train de se battre. Et le dernier tableau est un tableau qui exprime toute la dépression de X qui n'a pas vu la paix sur terre. Et on voit le lion épuisé, fatigué. Mais ce que ce monde babylonien ne verra jamais parce qu'il s'est rebellé contre Dieu, parce qu'il a rejeté le sauveur que Dieu a choisi, que Dieu a oint, parce qu'il méprise la parole de Dieu, parce qu'il rejette Dieu. Et ce que les chrétiens ne connaîtront que partiellement sur terre, la chorale céleste ici chante et célèbre dans la plus grande joie. Au retour du Seigneur Jésus-Christ, il règnera parfaitement sur toute chose. Et son règne de paix sera sur toute la terre. Il n'est pas étonnant que la chorale céleste chante alors, Alléluia, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire. Mais cela nous amène à un deuxième point. Quelle sera notre relation avec Dieu après le retour du Seigneur Jésus-Christ? Une des images que les chrétiens aiment se trouve dans le psaume 23, un psaume qui est très souvent cité. Intéressant de noter que la phrase « la vallée de l'ombre de la mort » ne se trouve pas à la fin du psaume, mais au milieu. Parce que le croyant ne termine pas sa course dans la mort. Il traverse la mort pour s'asseoir autour de la table qui a été dressée par le Seigneur Jésus, par le Seigneur lui-même. Et le psaume va terminer avec ces paroles réjouissantes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous avons une autre image de cette de gloire à venir ici dans les versets 7 à 8, où il est question des noces de l'agneau. La chorale chante, verset 7, « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et dans toute la Bible, on retrouve cette image où le salut est présenté comme une relation amoureuse entre Dieu et son peuple. Dieu dit à son peuple, « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité. Tu reconnaîtras l'Éternel. » Osée chapitre 2, versets 21 et 22. Et l'apôtre Paul voit l'accomplissement de cette promesse, de cet engagement dans l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir. Il écrit en Éphésiens chapitre 5, les versets 25 et suivants. Christ a aimé l'Église, cinquième mot sur la feuille. Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Une des belles illustrations de cela est l'histoire de Ruth, la Moabite, et Boaz, qui venait de Bethléem. Ruth vient à Boaz, elle n'a rien, elle n'a pas de parents connus, elle n'a pas d'héritage, elle vient d'un autre pays, elle n'a pas de richesse, de possession, elle n'a pas d'honneur. Mais sur l'encouragement de Naomi, sa belle-mère, Ruth s'adresse à Boaz dans la foi. Et que fait Boaz ? Boaz ne va pas l'exploiter comme une esclave. Non, il va la couvrir, il va pourvoir à ses besoins. Il va devenir son rédempteur, il va user de son droit de rachat. On va lire cette histoire dans le livre de Ruth. Et une fois qu'il l'a racheté, qu'il a utilisé ce droit de rachat, il va se joindre à elle dans les liens du mariage. Là, une image de l'amour du Seigneur Jésus-Christ pour son peuple. Nous avons dit que la foule au ciel se réjouit du jugement de Dieu sur Babylone. Et c'est un sujet de réjouissance parce que cela ouvre le chemin pour l'arrivée du règne parfait du Seigneur Jésus-Christ. Mais une autre raison de réjouissance, sixième mot sur la feuille, c'est de voir Babylone, la prostituée, séductrice, corrompue, être chassée en enfer pour laisser la place à l'épouse de Jésus-Christ, l'épouse sainte et glorieuse. C'est intéressant de se rappeler que le premier miracle que le Seigneur Jésus-Christ a accompli s'est passé lors de noces, les noces de Cana, où Jésus a changé l'eau en vin. Et ce n'est pas un accident. C'est parce qu'on peut voir tout son ministère, tout le ministère de Jésus sur terre comme étant une préparation pour son mariage, ses noces, pour l'appel et le rachat de son épouse. Et ici, au chapitre 19 d'Apocalypse, Jésus a vaincu le monde. Les noces peuvent commencer. Il est intéressant de se rappeler que les noces au temps biblique se déroulaient d'une façon différente qu'elles se déroulent aujourd'hui. D'abord, les parents arrangeaient les fiançailles de leurs enfants. Et c'était déclaré, certifié publiquement. Et on prononçait sur eux la bénédiction. Et les jeunes étaient légalement mariés, même s'ils n'étaient pas encore ensemble. Ensuite, il y avait un intervalle plus ou moins long. Parfois, ça pouvait durer des années. On pense à Jacob, par exemple, qui a travaillé 7 ans par amour pour Rachel. Et ensuite viennent les noces. Et cela commençait par une procession depuis la maison de l'épouse. Le père, la mère, toute la famille conduisaient l'épouse à la maison de l'époux, présentaient l'épouse à la famille de l'époux. Et en attendant, et quand ce jour arrivait, l'épouse se préparait, elle mettait ses plus beaux habits afin d'être la plus belle le jour où elle était présentée à son époux. Et quand elle arrivait à la maison de son époux, c'était le début des noces, d'un festin, d'un banquet qui pouvait durer une semaine, parfois plus. Et un commentateur fait le parallèle et il résume cela. Il dit que cela n'est un reflet de la relation entre Christ et l'Église. Il dit, en Christ, l'épouse a été choisie de toute éternité. Tout au long de l'Ancien Testament, les noces ont été annoncées. Puis le Fils de Dieu s'est fait homme et les fiançailles ont eu lieu. La dot a été payée au calvaire. Puis après un certain temps, qui aux yeux de Dieu ne dure qu'un moment, le fiancé revient. Les noces de l'agneau sont venues. L'Église sur terre et l'Église dans le ciel soupirent après ce moment. Alors, nous serons tous avec lui pour toujours. Ce sera une communion sainte, bénie et éternelle. Le plein accomplissement de toutes les promesses de l'Évangile. Et cela nous amène au troisième point. Qui est l'épouse de Jésus-Christ? Ou, on peut poser la question différemment. Comment des pécheurs comme nous peuvent-ils faire partie de l'épouse qui est pure et parfaite? Dans l'Ancien Testament, quand Dieu s'adressait au peuple d'Israël dans ce cadre, il a condamné le peuple d'Israël pour son péché, pour son adultère. Quand le peuple se tournait vers l'idolâtrie, en particulier les prophètes Jérémie et Ézéchiel utilisent ce langage, ils parlent de l'adultère du peuple d'Israël. Mais la réponse à cette question, comment ou qui est l'épouse, nous l'avons dans le livre d'Osée, que j'ai cité tout à l'heure. Et ce prophète allait illustrer l'amour de Dieu d'une manière extraordinaire. Parce que Dieu allait demander à son prophète d'épouser une prostituée appelée Gomer. Gomer allait le trahir. Et il allait racheter cette femme. Voici ce que Dieu dit à Osée. Osée 1, verset 2. « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Voilà, c'est une illustration du problème. Le pays, le peuple d'Israël abandonnait l'Éternel, se tournait vers les idoles. Mais cette description ne se limite pas au peuple d'Israël, puisqu'on a vu en Apocalypse 18 que le monde entier s'est prostitué. Le monde entier s'est détourné de Dieu. Ce monde dans lequel nous vivons. Alors comment pouvons-nous faire partie de l'épouse de Jésus-Christ, cette épouse qui est pure et parfaite? Comment des pécheurs que nous sommes peuvent-ils devenir l'épouse de Jésus-Christ? Et la réponse, nous l'avons au verset 8. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Il lui a été donné. Jésus est venu dans ce monde. Il a tellement aimé son Église. Nous avons cité ce passage en Éphésiens 5 tout à l'heure. Il a tellement aimé son Église qu'il est venu dans ce monde pour laver son péché. Septième mot sur la feuille. Pour la laver de sa corruption, de sa culpabilité, de sa honte, en prenant sur lui le péché de son peuple et en versant son sang pour laver son peuple. Et Jésus ne se contente pas de nous laver, il va aussi nous revêtir de sa justice parfaite. Une justice qu'il a acquise lui-même par son obéissance parfaite à la loi de Dieu. Il a obéi en tout point, il a acquis cette justice. Et cette justice, il la donne. Il la donne, on parle de justice imputé, c'est-à-dire qui est mise au compte du croyant. Et ensuite, il donne une vie nouvelle et il œuvre dans cette vie nouvelle pour que nous portions du fruit à sa gloire. Il y a la justification. Dieu déclare juste ceux qui sont en Christ, non pas à cause de nos œuvres, parce que nous nous le valons bien, non. Nous ne valons rien. Nous ne méritons que la colère de Dieu. Mais la justice du Seigneur Jésus-Christ est mise sur le compte du croyant, de celui qui vient à lui dans la repentance et la foi. Et la justice de Christ est un habit qui est parfait. Nous en parlions tout à l'heure de l'habit des noces, dans la parabole que le Seigneur Jésus-Christ a racontée. Et voilà, l'habit de noces, la justice de Christ, la justice parfaite de Christ. Il y a aussi la sanctification. Dieu œuvre en nous pour nous faire porter du fruit à sa gloire, pour que nous ne vivions plus pour nous-mêmes. Il lui a été donné de se revêtir. Il lui a été donné de se revêtir. Et en contraste avec les habits de séduction de Babylone, de ce monde qui nous séduit pour finalement nous détruire, nous avons ici l'épouse du Seigneur Jésus-Christ qui est bien plus belle, qui est pure. Elle est revêtue d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'habit qui a été donné à l'épouse, qui a été donné à l'Église, va se refléter dans sa vie, huitième mot sur la feuille. L'habit va se refléter dans sa vie. L'Église va manifester sa beauté par les œuvres justes des croyants. Œuvres qu'ils ne peuvent accomplir que par la grâce de Dieu, et non pas par eux-mêmes. Qu'avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Et ces œuvres justes des saints parlent surtout des actes de compassion, de bonté, des actes de miséricorde. Ce que le Seigneur Jésus-Christ souligne en Matthieu 25. Rappelez-vous, quand il reviendra dans sa gloire, il va séparer les uns d'avec les autres. Il va louer les croyants pour les œuvres qu'ils ont accomplies par sa grâce. Il va leur dire ceci, Matthieu 25, verset 35 et suivant. « Car j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, etc. » Et les croyants vont être surpris. Ils vont demander, verset 37, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire, etc. » Et Jésus va répondre, verset 40, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » On n'a pas besoin d'être important aux yeux de ce monde. La plupart d'entre nous ne le seront jamais. Aujourd'hui, par exemple, le journal de Saône-et-Loire n'a pas titré que nous nous réunirions ici ce matin pour un culte. Non, le monde n'a rien à faire de ça. Nous sommes insignifiants aux yeux du monde, mais pas aux yeux de Dieu. Et les petits actes de bonté, de bienveillance, des actes qui reflètent l'amour de Christ pour nous, ont une importance. On ne parle pas, bien sûr, de gagner son acceptation devant Dieu par nos œuvres. Non, l'épouse ne gagne pas son statut, neuvième mot sur la feuille. L'épouse ne gagne pas son statut. Nous lisons verset 8, « Il lui a été donné de se revêtir. » C'est Dieu, en Christ, qui pourvoit cet habit, qui pourvoit ce fin lin pur et éclatant. Notre relation avec le Seigneur Jésus-Christ implique son œuvre pour nous, la justification, son œuvre en nous, la sanctification, et son œuvre à travers nous, les œuvres justes des saints. Et c'est un habit de noces, indissociable, dixième mot sur la feuille. C'est un seul habit de noces que nous sommes appelés à porter. En nous dépouillant de vieil homme, comme le dit l'apôtre Paul, ce vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Éphésiens 4. Quatrième point. Jean nous donne ici une certitude que nous pouvons avoir dès aujourd'hui. Dans ce passage, en Apocalypse 19, nous n'avons pas beaucoup de détails sur le bonheur et la vie du mariage, le mariage entre Christ et l'Église. On verra plus tard dans les chapitres 21 et 22. Mais l'ange, ici, souligne une bénédiction particulière, onzième mot sur la feuille, une bénédiction que nous possédons déjà aujourd'hui. Verset 9, l'ange me dit, écrit, « Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et là, les images sont mélangées parce que les croyants ne sont pas seulement l'épouse, ils sont aussi les invités. Et le croyant aujourd'hui est heureux, il est béni parce qu'il regarde vers ce jour du festin des noces de l'agneau. Et il sait que par son union avec Christ, son invitation est en sécurité. Si je suis uni à Christ par la foi, je peux être sûr que lorsque le Seigneur Jésus-Christ revient et que le festin des noces de l'agneau prendra place, je serai là. Si je fais partie de l'Église du Seigneur Jésus-Christ, je sais que je serai aux noces de l'agneau. Et même si mon chemin sur terre est difficile, je sais qu'il se dirige vers cet instant. Mais ce que cela souligne, c'est qu'il y a un lien indestructible, 12e mot sur la feuille, entre ma position actuelle dans le monde et ma position future dans l'éternité en ce qui concerne le salut. Si je crois aujourd'hui dans le Seigneur Jésus-Christ, si je suis uni à lui par la foi, je le suis pour toujours. Et rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais l'inverse est aussi vrai. Si je ne suis pas uni à Christ par la foi, si je ne crois pas dans le Seigneur Jésus-Christ, dans ce monde, alors je ne le serai pas, je ne serai pas uni à lui dans l'éternité. Et nous le savons parce que c'est l'autorité de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui l'affirme. L'ange ajoute, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ce n'est pas l'opinion d'un homme, même un chef religieux. Non, c'est la parole de Dieu. Je donne quelques versets, Jean 3, verset 36. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » C'est la réalité du croyant dès aujourd'hui. Celui qui croit, présent, a la vie éternelle. Paul dira en Éphésiens 1, versets 13 et 14, que le croyant était scellé du sceau de l'Esprit de Dieu. Il ne passera pas à côté de son héritage. L'Esprit que Dieu donne, qui vient habiter dans la vie du croyant, est le garant. Le croyant ne passera pas à côté de l'héritage que Dieu lui réserve. Pierre dira la même chose en 1 Pierre 1, versets 4 et 5. Ceux qui croient dans le Seigneur Jésus-Christ sont gardés par la puissance de Dieu. L'héritage est gardé, mais le croyant est aussi gardé. Et si nous savons ces choses, nous n'avons pas besoin d'attendre ce grand jour glorieux du retour du Seigneur Jésus-Christ pour commencer à le louer. Nous pouvons le louer dès aujourd'hui. Nous avons toutes les raisons de le louer, nous avons toutes les raisons de vivre pour lui. Même si nous vivons dans un monde incrédule, dans un monde hostile, dans un monde de séduction. Mais nous avons la garantie, si nous appartenons à Christ, qu'un jour nous posséderons l'héritage que Dieu nous promet. Et cinquième point, nous avons l'émerveillement de l'apôtre Jean. Verset 10. Jean entend cette déclaration, cette bénédiction, et voilà sa réaction, verset 10. « Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur ce verset, simplement souligner quelques-unes. On n'adore pas Dieu. On n'adore même pas les anges. On n'adore pas Marie. On ne va pas adorer un prédicateur, connu ou pas connu. Non, on adore Dieu, et lui seul. La deuxième chose, c'est que le chrétien, celui qui est uni à Christ, est aussi un compagnon de service des anges. Il est appelé à louer Dieu, à servir Dieu, à louer le Seigneur Jésus-Christ, à servir le Seigneur Jésus-Christ comme les anges. Mais le plus important, c'est le lien avec le passage. Et la réaction de Jean montre que le simple fait d'anticiper les noces de l'agneau est quelque chose de glorieux. Jean voit quelque chose de glorieux dans cela. Parfois, cela peut nous arriver, on va entendre un message ou on va lire un livre qui nous décrit et on aperçoit quelque chose de la gloire du Seigneur Jésus-Christ, 13e mot sur la feuille. Et on a une réaction similaire à celle de Jean. On veut mettre le prédicateur ou l'auteur sur un piédestal. On veut l'adorer. Et si on n'a pas été tenté de le faire, c'est que peut-être nous n'avons peut-être jamais vu quelque chose de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà l'apôtre Jean à la fin de sa vie, tellement émerveillé par le message de l'ange qu'il tombe à ses pieds pour l'adorer. Et nous aussi, nous devrions être tellement émerveillés en anticipant la gloire qui est réservée aux enfants de Dieu. Nous attendons ce jour où le Seigneur Jésus-Christ sera vu de tous, où toute langue confessera, volontairement ou par obligation, que Jésus-Christ est Seigneur. Mais nous n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ règne aujourd'hui. Il règne par sa parole, 14e mot sur la feuille. Il est en son royaume quand sa parole est annoncée. Des hommes, des femmes, jeunes, moins jeunes, sont délivrés de Babylone, la prostituée, sont délivrés de ce monde incrédule pour faire partie de l'épouse glorieuse de Jésus-Christ. Chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, chaque fois que la parole de Dieu est proclamée, que ce soit ici, que ce soit dans d'autres lieux, que ce soit à la maison, le Seigneur Jésus-Christ règne et par sa parole, il appelle à venir à lui. Dans la repentance et la foi. Et Jean termine en disant, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et deux interprétations qui sont possibles. La première, c'est que là où le témoignage de Jésus est donné, là où Christ est annoncé avec amour, ou dans son amour et dans sa grâce, c'est là le véritable esprit de la prophétie. Tout message qui n'est pas centré sur Christ n'est pas un message de l'Évangile. Le véritable message de l'Évangile est centré sur Christ, le témoignage de Christ et le véritable esprit de la prophétie. Mais il y a aussi dans l'autre sens, ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ par la foi reçoivent l'esprit de la prophétie, ils commencent à annoncer, ils commencent à témoigner, ils commencent à parler de Christ, à le faire connaître. Il parle de Christ et pas d'autre chose, ni de quelqu'un d'autre. Le Seigneur Jésus-Christ règne par sa parole, même aujourd'hui. Pour terminer, nous avons parlé du prophète Osée, à qui Dieu a dit d'épouser une prostituée du nom de Gomer. Et comme c'est dit, peu après son mariage, elle l'a trahi. Et elle est repartie auprès de ses amants. Et par cela, Dieu illustrait l'idolâtrie et l'adultère du peuple d'Israël. Il illustrait le péché du peuple d'Israël. Et l'histoire nous dit que les choses ne se sont pas bien passées pour Gomer. En fait, les choses sont allées tellement mal qu'au chapitre 3 du livre d'Osée, on retrouve Gomer en train d'être vendu comme esclave. Et là, on peut s'imaginer, entendre les cris. Moi, je donne 12 pièces d'argent, 13 pièces d'argent, 14 pièces d'argent. Et puis, on entend une voix. Gomer entend une voix dans la foule. Il entend une voix qu'elle semble reconnaître. Une voix qui est celle qu'elle a entendue le jour de son mariage. La voix d'Osée. Elle dit 15 pièces d'argent. Et un homère et demi d'orge. plus de 300 litres d'orge, pour donner un volume. Osée va racheter avec son propre argent Gomer, sa femme prostituée. Et lui dit en Osée 3, verset 3, « Reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois aucun homme, et je serai de même envers toi. » L'homme en dehors de Christ est comme Gomer. Il est esclave du péché, 15e mot sur la feuille. Esclave, prisonnier dans sa rébellion contre Dieu. Il vit dans ce monde, il est séduit par ce monde qui promet des choses, mais ce monde ne veut pas vraiment le bonheur de l'homme. Il veut le garder esclave de sa façon de penser en écartant Dieu. Même dans tout cela, il y a l'amour rédempteur de Jésus-Christ, 16e mot sur la feuille. Nous avons été créés pour vivre dans une intimité avec Dieu, dans une parfaite liberté, mais nous avons préféré nous détourner de Dieu pour vivre dans l'adultère avec le monde, avec ses séductions trompeuses. Le monde nous offre ou prétend nous offrir tout, mais pour nous rendre esclaves de ses valeurs. Mais comme Osée, le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la place du marché pour racheter. Il a payé le prix en versant son sang à la croix. Et il rachète, il donne, il revêt les siens de son propre habit de justice. Et il nous dit, tu n'appartiens plus à ce monde. Tu es à moi et je suis à toi. Y a-t-il plus grand amour que celui-là? Le monde promet la paix et la liberté, mais le monde est séducteur et trompeur. Seul Jésus, 17e mot sur la feuille, seul Jésus nous donne la paix et la liberté. Que Dieu nous accorde sa grâce de venir à Jésus dans la repentance et la foi. Et que Dieu bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.